Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Gardez le nez dans vos affaires avec Simon Philibert. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, à vos affaires, en balado sur l'application Cube et le site cube.ca, section radio.
IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Maître dans l'art de parlementer, le dernier mot lui appartient. Philippe-Vincent Foisy.
Il a été sacré meilleur chef au Québec lors des lauriers de la gastronomie québécoise. C'est le copropriétaire du groupe La Tanière. On s'en va à Québec. François-Emmanuel Nicole. Monsieur Nicole, bonjour.
Bonjour.
D'abord, félicitations.
Merci beaucoup, c'est gentil.
Comment on se sent quand on est le meilleur chef du Québec?
Vraiment, cette soirée-là, c'était complètement magique. Moi, j'ai seulement 32 ans, donc je m'attendais pas à ça tout de suite. Puis, j'avais beaucoup de gros noms quand même qui étaient finalistes pour ce prix-là. Puis, mon nom a été annoncé, en fait, j'avais l'impression qu'il y avait comme une montagne qui me tombait sur le dos. Puis, j'ai dû regarder l'écran même pour être sûr que c'était vraiment mon nom. C'était vraiment une grande fierté.
Puis, juste pour ceux qui ont aucune idée, vous êtes qui? Vous venez d'où? C'est quoi votre parcours? Comment vous êtes arrivé là à 32 ans?
J'ai étudié en sciences nature au cégep. Puis, à la fin de mes études, au lieu d'aller en génie à l'université, j'ai décidé d'aller faire gestion de restauration à l'THQ. Mais je travaillais en restauration depuis que j'avais 15 ans comme emploi étudiant. Puis, j'avais l'impression que c'était ça que je devais faire, que c'était... J'essaie de me convaincre de pas faire la restauration à cause de tout ce qu'on entend sur la restauration, mais finalement j'ai décidé de le faire. Puis de fil en aiguille, j'ai toujours visé des restaurants haut de gamme. Puis à la fin de mes études, j'ai eu une bourse avec la bourse Grand Chef Ravi Château avec le THQ. Puis ça, c'est une bourse de perfectionnement. Donc moi, j'avais monté mon projet en disant que c'était que la cuisine que je voulais faire. Puis là, je venais de faire mon bac en gestion. Puis là, je suis parti pendant un an. 4 mois en Australie, 4 mois en France, 4 mois en Espagne, dans des restaurants qui font partie des meilleurs restaurants au monde. Puis, suite à ça, je suis revenu à Québec. J'ai commencé à travailler un petit peu à la Légende dans le Vieux-Port de Québec. Puis là, j'ai rencontré les Frédéric Laplante et Karen Perrien, qui venaient tout juste de fermer La Tanière, qui était située dans le Rang Saint-Ange à l'époque. Puis, moi, j'avais envie d'ouvrir quelque chose de plus haut de gamme à Québec. Donc, on s'est associés. Puis, en 2017, on a commencé à lancer le projet de rouvrir La Tanière. On a ouvert le bistrot L'Origine, entre-temps, avec Sabrina Lemay, qui est chef de la Jeune, qui est une de nos associés également. Puis, en mars 2019, on a ouvert La Tanière. Puis, cet automne, en 2022, on a obtenu nos 5 diamants, qui est une reconnaissance énorme. Il y a seulement 4 restaurants au Canada qui ont 5 diamants. Donc, ça a été très, très vite.
Puis, qu'est-ce que vous faites à La Tanière? Vous dites que c'est haut de gamme. Haut de gamme, je veux dire, on entend, je sais pas moi, le toqué ou des restaurants là, français où tu manges une bouchée, puis la cuisine moléculaire. Puis, c'est quoi que vous faites?
Donc, pour moi, le luxe que j'essaie d'offrir, c'est probablement une expérience humaine. Chez nous, les gens vont se déplacer dans 3 routes pendant la soirée. C'est dans un local qui date de 1786. Pour nous, c'était important d'avoir un lieu qui avait une histoire à raconter aussi pour faire cette expérience.
Donc, vous êtes dans l'histoire de Québec, là, dans un bâtiment patrimonial à Québec. Là.
Exact. Ça date de 1686. C'est des voûtes souterraines. Il n'y a aucune fenêtre dans le restaurant. Puis, en fait, on raconte l'histoire des plantes sauvages au travers du menu. Vraiment, on repart sur un écosystème pour faire notre série de bouchées qui commence le repas. Les gens commencent avec ces 6 bouchées-là. Puis, en fait, l'idée de prendre un écosystème, c'est de pousser la création parce que les 2-3 premières plantes dans ces écosystèmes-là, souvent, on est capable de les trouver assez facilement. Mais après, il faut creuser la tête un peu pour en trouver d'autres. Par exemple, on faisait une série bouchée sur les plantes des berges du Saint-Laurent, de la soie de Saint-Laurent. Là, on est en train de développer quelque chose pour cet été avec les plantes d'eau douce. Donc aujourd'hui, on s'en va avec l'équipe en stand-up paddle sur les lacs au nord de Québec pour essayer de trouver des plantes. Ça, c'est que pour nous boucher. Après ça, on a 8 services qui suivent dans d'autres salles où là, ça va être un menu qui raconte soit l'histoire du bâtiment, qui met en valeur un producteur ou encore qui raconte l'histoire du quartier. Donc, en fait, le repas se veut un prétexte à raconter une histoire tout le long de la soirée.
Puis ça s'adresse quoi? Est-ce que c'est principalement des touristes qui viennent vous voir? Est-ce que c'est une clientèle locale, québécoise? C'est qui vient manger chez vous?
Donc, ça, moi, je suis très content parce qu'en fait, c'est un beau mix. Je vous dirais que les week-ends, c'est à 95% de la clientèle locale.
Ah oui?
Les samedis, c'est souvent la journée où il faut réserver le plus longtemps à l'avance parce que c'est la clientèle locale qui va réserver pour souligner des occasions spéciales. Puis après ça, les journées un petit peu tranquilles, les jeudis, les dimanches, on va pouvoir remplir le restaurant avec la clientèle touristique.
Puis on est dans le très haut de gamme, là.
Oui, exact. Chez nous, pour vous donner une idée, on fait 62 clients par soir, puis on a 30 employés en même temps sur le plancher pour faire ces 62 couverts.
Oh boy! Tu me sembles que c'est pas un ratio qui fonctionne.
Non, mais ça fonctionne. En fait, justement, mon background de gestion, moi, c'est quelque chose sur lequel j'avais travaillé. À l'école, on nous apprend toujours, ça prend 30% de coût main-d'œuvre, 30% de coût nourriture. En fait, moi, j'ai décidé d'inverser ça, de mettre à 45% de coût de main-d'œuvre, puis à 15% de coût de nourriture, parce qu'en fait, toute la nourriture qu'on reçoit, on la prend le plus brut possible, puis on la transforme pour rendre un produit haut de gamme. Puis je suis convaincu que justement, le fait de mettre autant d'humains au service de la clientèle, c'est ce qui fait que l'expérience devient haut de gamme.
Puis vous les arrivez à les trouver, vos employés, parce que c'est un gros problème là, dans le monde de la restauration, notamment après la pandémie. Vous avez-vous des problèmes de recrutement?
Alors, on en a eu. Ça s'est beaucoup calmé. Je vous dirais, l'été suite au COVID, c'était quelque chose d'assez intense. Puis en fait, les gens qui viennent chez nous restent assez longtemps. Depuis cette fameuse ouverture post-COVID, là, j'ai très, très peu de roulement de personnel. Je fais en sorte que je touche du bois, mais ça va super bien, c'est pensé.
OK. Puis, je veux dire, c'est des menus à quoi? Genre plusieurs centaines de dollars? C'est
oui,
quelqu'un qui nous écrit?
Le menu est à 205 $ par personne. Puis ensuite, il y a possibilité de prendre encore de vin, encore sans alcool, encore collection. Donc, en moyenne, les gens qui viennent chez nous, selon les choix d'alcool qui vont être pris, c'est à peu près 320 $ par personne, plus taxes, plus service.
OK. Puis, je veux dire, vous arrivez à être rempli presque tout le temps, là.
Oui, on a eu une petite période creuse, mars-avril. Sinon, le reste de l'année, on est à 90% d'achalandage. Puis ça, c'est quand même une grosse fierté parce que de lancer ce projet-là à Québec, on avait quand même un petit peu de doute au début. Puis finalement, la clientèle est vraiment au rendez-vous. Puis là, on sent un bel appui de toute la communauté touristique à Québec qui sont contents qu'il y ait un restaurant comme ça à Québec.
Puis, tu sais, maintenant, si on prend un pas de recul sur le Québec, là, il y a eu avant vous les Normands Mousseau, il y a Mousseau aujourd'hui dans la nouvelle génération. Il y a eu Normand Laprise avant, les Vézina. Il y a eu quand même beaucoup de chefs qui ont comme pavé la voie. Là, aujourd'hui, vous êtes une nouvelle génération. Là, je le disais avec Antonin Mousseau, il y a vous. Vous la voyez où, la culture culinaire québécoise?
Oui, donc en fait, moi, Normand Laprise, ça a été une grande inspiration tout le long de mes études en restauration. Puis en fait, je trouve que M. Laprise a réussi à vraiment bien mettre en valeur le terroir.
Il y a Martin Picard aussi.
Exact. Donc tous ces chefs-là ont vraiment travaillé les liens avec les producteurs directs. Puis en fait, moi, mon défi, c'est de travailler le terroir sauvage québécois. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais il y a plein de choses dans la nature au Québec qu'on connaît pas, puis qui sont comestibles, qui sont des fois très...
Fait que vous allez cueillir, vous le disiez tantôt en paddleboard, vous allez dans la forêt, vous, puis vous pouvez faire une partie de votre épicerie pour la soirée. Ouais.
Exact, c'est quelque chose qu'on fait chaque semaine, pas nécessairement en paddleboard, là, c'est quelque chose de quand même assez unique qu'on fait tout à l'heure, mais à toutes les semaines, on est en forêt, l'hiver, on va en raquette aussi pour trouver des choses, puis en fait, c'est ça, c'est ça le défi. Je trouve que de rendre le terroir sauvage québécois, c'est là où on va aussi rapprocher une identité québécoise qui est unique parce qu'on a des produits dans la forêt qu'on a nulle part ailleurs sur la planète. Puis ben c'est le commentaire aussi qu'on a de la clientèle. Les gens viennent, puis à la fin de la soirée, ils disent des choses comme j'ai eu l'impression de voyager ce soir, j'ai eu l'impression d'être dans un autre pays, pourtant on fait découvrir des choses qui sont chez nous. Ça, c'est vraiment mon objectif avec ce restaurant-là.
Puis là, mettons, à 32 ans, il vous reste techniquement une trentaine d'années devant vous de travail. vous voyez où? T'sais, est-ce que vous voulez remplacer Ricardo à télé un jour? Est-ce que vous voulez des livres de cuisine? Est-ce que c'est d'autres restaurants un peu partout dans le monde? Est-ce que vous êtes rempli avec votre projet parce qu'il change tout le temps? C'est comment vous voyez votre futur maintenant, en plus que vous êtes le meilleur chef du Québec?
En fait, on travaille beaucoup pour attirer une reconnaissance internationale à Québec. Ça, c'est vraiment l'objectif des prochaines années. Quand on a ouvert le restaurant, on a caché des bouteilles de champagne dans le mur en disant que le jour où on rentrerait dans le World 50 Best, on défoncerait le mur pour prendre une bouteille de champagne. Fait que ça, c'est l'objectif depuis le jour 1. Puis on continue de travailler là-dessus. Là, c'est beaucoup de communication pour faire venir de la presse internationale qui a de l'impact par rapport à ça à Québec. Puis c'est justement, moi j'ai l'impression qu'au Québec, on a une gastronomie qui est quand même très, très forte. Puis quand je vois d'autres villes dans le monde qui reçoivent énormément d'attention par rapport à ça, ben, j'ai l'impression qu'on pourrait aussi y tailler notre place. Donc ça, c'est mon objectif pour les prochaines années.
Puis est-ce que ça va prendre l'aide du gouvernement? Est-ce que c'est la ville, est-ce que c'est le gouvernement provincial qui doivent donner un petit coup de pouce? Là, on en parlait des fois dans une bonne politique restaurant, une politique de culture gastronomique ou de penser au resto pas juste comme c'est de l'économie, mais c'est aussi de la culture. Est-ce que ça va prendre un coup de pouce du gouvernement?
Ben, je suis pas dans l'esprit où ça va prendre des grandes subventions, des choses comme ça. Il y a peut-être des petites choses qui peuvent être mises de l'avant, mais c'est surtout des... On vit déjà un peu l'appui avec des projets qu'on fait avec, par exemple, l'Office du tourisme de Québec où j'essaie de faire venir des journalistes, on s'en parle. Si ça fonctionne de leur côté, ils nous aident là-dedans, ils font appel à leurs partenaires pour billets d'avion, logement, des choses comme ça. Donc, avec ça, on est capable de travailler. Puis après ça, il y a peut-être d'autres programmes qui pourraient être mis de l'avant. Je sais qu'à Montréal, il y a eu des chefs qui se sont levés pour dire qu'il fallait que ce soit vu comme un niveau culturel. Après ça, c'est sûr que ça reste une industrie comme une autre, mais après ça, la question se pose. On voit souvent des emplois dans d'autres industries qui sont largement subventionnés. La restauration, je pense qu'il faut arrêter de voir ça comme un milieu où les gens vont aller travailler par forfait. C'est quand même un milieu où il peut avoir des bons salaires. Par exemple, chez nous, il y a personne qui fait en bas de 60 000 $ par année. Puis, si on parle des cuisiniers qui sont sortis de l'école, ça fait même pas 5 ans. Puis, c'est aussi un endroit qui engage énormément de personnel. Je parle de la restauration en général, pas juste chez nous. Donc, il faut peut-être aussi changer cette vision-là, puis regarder la restauration comme une autre industrie, puis pas nécessairement dire que c'est parce que c'est pas du manufacturier, que c'est pas une industrie qui vaut la peine d'être soutenue.
Je pense que ce message-là est important et espérons qu'il soit entendu. François-Emmanuel Nicole, merci beaucoup d'avoir été là et au plaisir de se reparler dans les prochaines années quand vous serez numéro 1 ou 2 du World's 50 Best.
On l'espère. Merci beaucoup.
Bon, bonne chance. Salut.